Il est 8h.
Des étudiants de notre pays paient un lourd tribut à cette crise sanitaire.
Et c'est parce que le climat est parfois très morose qu'Europe 1 a choisi de se tourner vers l'action, l'entraide, l'initiative. Opération Europe 1 solidaire toute la semaine, invités, conseils, offres d'emploi, dispositifs inédits déployés dès ce matin à destination des jeunes et simultanément sur europe1.fr. Alors qu'on va le voir dans le journal, les politiques cherchent à tout prix des idées pour la jeunesse et on va le voir aussi, les idées noires, même chez les adolescents, sont en hausse. Dans ce journal, Veolia arrête la parade amoureuse et tente un mariage forcé avec Suez via une OPA hostile. Les mots des jeunes et des policiers sur la réalité du contrôle aux faciès, témoignage. Et puis le 7e art, décidément fan des mines du Nord-Pas-de-Calais et d'Émile Zola. Après les films, une série germinale est en plein tournage.
Juste après ce journal, financer aujourd'hui et préserver ceux qui construisent demain. La dette, la fiscalité et la réponse du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, sur le front des solutions pour la jeunesse aussi. Il répond à notre opération Europe 1 solidaire. L'interview de Sonia Mabrouk à 8h15. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quand le mal-être de la jeunesse déferle sur l'hôpital, avec quelques mois de retard sur la vague du Covid, c'est une toute autre souffrance que soignent en ce moment les services psychiatriques en charge des enfants et adolescents.
Arthur Mbaché, bonjour.
Bonjour.
Vous avez visité le service de pédopsychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, où les patients sont de plus en plus nombreux.
Et en première ligne, face à ce qu'ici on appelle la troisième vague psychique, il y a à l'accueil de ce service de pédopsychiatrie Catherine qui passe sa journée à répondre au téléphone.
Là, on peut en avoir 10 d'affilée et 10 plus urgents les uns que les autres. Parce que j'ai beaucoup de familles en pleurs, hein, au téléphone aussi. Donc la dernière, c'est l'appel d'une maman dont le petit garçon il est rentré chez lui en disant à sa maman « Est-ce qu'il faut que je me suicide ?»
Les médecins ici parlent d'une détresse inédite des enfants et des adolescents. Je vous donne deux chiffres. 3 fois plus de prise en charge d'ados anorexiques, passage à l'acte suicidaire, plus 20%.
Arthur, la cause de ces chiffres que vous nous donnez, c'est bien la crise sanitaire.
Confinement, couvre-feu, courant distanciel, pas de sortie, isolement, solitude, pendant des mois, ils ont pris sur eux, dit la pédopsychiatre Julie Rowling, et c'est maintenant que ça explose, effet cocotte-minute, dit-elle.
Par exemple, certaines tentatives de suicide très graves, comme les tentatives par pendaison, habituellement on en a quelques-unes par an, et là on est déjà, depuis le début de l'année, à 4 tentatives de suicide de ce type. Samedi, j'étais d'astreinte, j'ai pu voir une adolescente qui était à son 4e passage à l'acte suicidaire. Habituellement, cette patiente aurait été hospitalisée dans notre unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie. Là, il n'y avait pas de place. Donc la deuxième possibilité, c'est l'hospitaliser dans un des services de pédiatrie qu'on appelle les grands enfants. Là encore, du fait que la majorité de leur lit était occupée par nos patients en attente, eh bien, finalement, on lui a trouvé une place dans un lit de chirurgie en pédiatrie. C'était, je dirais, la solution la moins catastrophique.
Voilà, difficile à croire, des chirurgiens pour s'occuper d'une ado qui a tenté de se suicider. La pédopsychiatrie est saturée, sous l'eau, comme l'étaient les services de réanimation au printemps dernier. Il nous faut, disent les équipes, des moyens et du personnel.
La pédopsychiatrie saturée comme les services de réanimation. Arthur Mbaché en ligne de Strasbourg pour Europe 1. Merci Arthur, j'ai noté ces chiffres que vous donniez à l'instant aussi. 3 fois plus de prise en charge d'anorexie et une hausse de 20% des passages à l'acte suicidaire.
Le constat est là, ce mal-être des jeunes, la classe politique l'a bien perçu, tout bord confondu. On tente d'y apporter des réponses. Jean-Rémy Baudeau.
Jean Castex a beau afficher sa mobilisation, énumérer les aides exceptionnelles, rien n'y fait. L'opposition, comme cet élu LR, dénonce le traitement réservé aux jeunes.
Les numéros verts et les repas à 1 euro ne suffisent pas. Les jeunes se sentent stigmatisés par le gouvernement. Évitons une génération sacrifiée.
À droite, certains vont jusqu'à proposer la création d'emplois publics. Le député LR Pradier évoque 300 000 jobs pour la nation. À gauche, Jean-Luc Mélenchon veut élargir le RSA dès 18 ans. Cet élu communiste s'inquiète pour la santé mentale des jeunes.
Les étudiants sont en effet les grands oubliés, alors qu'ils doivent étudier dans une solitude inouïe, qu'ils doivent vivre dans une précarité grandissante, avec la disparition des jobs étudiants, et que leur avenir devient un horizon d'inquiétude.
Côté majorité, LREM propose un prêt étudiant de 10 000 euros, mais le gouvernement peine à faire entendre son message d'optimisme.
Ce qui compte maintenant, c'est un discours positif pour la jeunesse. Faites des propositions.
À tel point que même le ministre de l'Éducation termine.
Merci, monsieur le ministre.
Micro coupé.
La parole est à monsieur.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Et face aux restrictions sanitaires, face à la morosité, Europe 1 a donc décidé de consacrer toute une semaine à l'entraide, à l'action, l'initiative en faveur des jeunes et des étudiants. Hashtag Europe 1 solidaire, c'est le nom de cette opération.
On en a beaucoup parlé depuis tôt ce matin. Je vous donne comme ça quelques rendez-vous prévus. Tiens, la santé et le bien-être des jeunes avec la chronique du docteur Jimmy Mohamed. C'est tous les jours à 8h35 dans la matinale. Et puis, autre rendez-vous d'info, une émission spéciale d'Europe Soir avec Julien Bugier, de 18h à 20h ce soir.
Nous étions à nouveau ce matin au Portugal dans le journal de 7h où les dernières nouvelles sur le front de l'épidémie semblent montrer une accalmie après un déluge de contaminations. Mais les hôpitaux sont encore loin de percevoir cette amélioration.
Plusieurs pays ont proposé leur aide, l'Autriche, la Suisse et puis l'Allemagne qui envoie 50 respirateurs et 26 soignants et médecins militaires.
Oui, dont cet homme, le colonel Evers, qui va diriger une unité de 8 lits de soins intensifs à Lisbonne.
C'est une première pour des militaires. Notre unité est capable de se déployer n'importe où dans le monde très rapidement. Nous sommes entraînés pour gérer des crises. Personnellement, j'étais en Afghanistan il y a quelques mois, donc c'est ça notre travail normalement. Ici, l'ennemi est invisible, mais extrêmement dangereux. De mon point de vue, c'est donc une question de solidarité. Si un ami a besoin de soutien, alors c'est normal pour nous de l'épauler.
Le colonel Evers au micro européen de Roman Hockey.
Les suites d'un feuilleton qui ne coule pas de source. Le rapprochement entre Suez et Veolia, deux champions français de l'eau et de l'environnement, deux rivaux historiques aussi. Veolia avait acquis près de 30% du capital de Suez contre la volonté de celui-ci en octobre. Voilà que ce même Veolia veut mettre 8 milliards d'euros sur la table pour une OPA et donc acheter les 70% restants. Dans cette affaire, Bruno Le Maire répète pourtant depuis des mois, comme ici sur France 2, qu'il veut une opération amicale.
Ne donnons pas le spectacle au reste du monde de deux très belles entreprises industrielles françaises qui s'affrontent. Je pense que ce conflit est inutile.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
Chef du service économie d'Europe 1. Alors on est d'accord que là, en déclenchant une OPA, on oublie tout aspect amical.
Quand on a des amis comme Veolia, vaut mieux ne pas avoir d'amis. Voilà ce que l'on me disait hier soir chez Suez. Clairement, pour le numéro 2 mondial de l'eau, Veolia ne respecte pas ses engagements sur ce côté amical de l'offre. Le groupe a donc saisi, dès qu'il a appris hier soir l'offre de Veolia à la justice, et il a obtenu, là ce matin, une ordonnance du tribunal de Nanterre. Pour le moment, la justice bloque cette offre car elle n'est pas amicale. Chez Veolia, on dit ce matin que l'on s'y attendait, que l'on va regarder cette ordonnance, mais que ça ne change rien à la détermination du groupe. Veolia est persuadé que son concurrent cherche à gagner du temps pour présenter une offre alternative avec des fonds étrangers. C'est la raison pour laquelle Veolia dit avoir accéléré hier soir par surprise. Il voulait forcer Suez à se prononcer. Et quant à l'amicalité, c'est impossible de négocier avec eux. Ils ont un double jeu, dit-on chez Veolia. La seule certitude dans ce dossier, c'est que l'on n'a jamais assisté de toute l'histoire à une telle bataille et à de tels échanges d'amabilité entre deux groupes de cette taille. Et si le mariage devait intervenir, ce qui est certain, c'est qu'il sera au moins explosif.
L'éclairage en direct d'Emmanuel Duteil. C'est l'un des 7 péchés capitaux décrits par Gérald Darmanin lui-même. Les rapports entre la police et la population, Emmanuel Macron avait évoqué, souvenez-vous, un point précis de ses difficultés lors de son interview aux médias bruts il y a quelques semaines.
Quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé. Parce qu'on est identifié comme étant un facteur de risque, de problème et que c'est insoutenable.
Voilà que la question des contrôles aux faciès est au menu de la toute première table ronde aujourd'hui, place Beauvau, entre les élus et les représentants de la police et de la gendarmerie.
Car les jeunes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés, selon l'enquête du défenseur des droits. Sujet extrêmement sensible dans cette cité du 20e arrondissement de Paris, où s'est rendu Justin Morin pour Europe 1.
Contrôle aux faciès, ça nous parle grave.
Lamine et ses amis fument assis devant une boulangerie. Évoquer avec eux le contrôle aux faciès, c'est presque parler du quotidien.
C'est automatique. On a tellement grandi avec ça, des fois on va être en voiture, on va être de noir. On sait qu'ils vont bloquer sur nous, c'est normal. Alors qu'on a rien à se reprocher.
Ça c'est dérangeant. C'est-à-dire si aujourd'hui je m'insurvais, automatiquement je suis dans une catégorie, je suis dans un sac.
Un sentiment, explique l'un d'eux, qui renforce le repli communautaire.
On est traité comme on va dire un peu comme de la merde, ben, on va rester comme on dit entre merde et salut les autres. Tu vois.
Mais ils sont pas tous pareils.
Ils sont pas tous pareils. Ce qui est dommage, c'est ce rapport qu'on a en fait avec eux.
Toujours le rapport de force. Voilà. On veut juste que l'approche, elle change.
Un peu plus de respect suffirait, disent-ils, à améliorer leurs relations. Jérôme Jiménez, lui, est policier, jeune délégué UNSA, et il a lui-même travaillé dans cette cité.
Il y a une réalité de terrain qui fait qu'on peut être amené à contrôler les individus plusieurs fois.
Il se souvient de jeunes contrôlés 3-4 soirs d'affilée pour les mêmes troubles de voisinage.
On les a verbalisés, on les a évincés, mais ces personnes reviennent et empêchent les habitants du quartier de pouvoir se reposer. Donc c'est compliqué. Et c'est pas parce que vous êtes un groupe de jeunes capuchés et autres que vous vous faites contrôler. C'est parce que votre attitude répond à des signalements.
Pour lui, il faudrait généraliser les caméras piétons pour les policiers et plus d'actions de pédagogie dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires.
Justin Morin et Europe 1 vous dévoilaient tout à l'heure dans le journal de 7h les résultats d'un sondage commandé à Ipsos par la police nationale, dont voici quelques chiffres. 71% des personnes interrogées ont une bonne image de la police, mais 62% des Français pensent que les policiers font parfois ou régulièrement usage excessif de la force. Résultats retrouvés en complet sur Europe 1.fr.
C'est une grosse production qui est en tournage en ce moment dans les Hauts-de-France, la mini-série Germinal.
Oui, Germinal, c'est Zola, bien sûr. C'est aussi le film de Claude Berry il y a 28 ans. Voici donc une nouvelle version en feuilleton, tournage dans le Pas-de-Calais, auquel Lionel Gougelot a pu assister pour Europe 1.
Ce jour-là, le tournage a lieu sur le carreau de l'ancienne fosse de Wany. Les bâtiments d'époque, le chevalement du Puy-de-Mine, un environnement unique pour Isabelle Quillard, la chef décoratrice.
On a une chance inouïe de pouvoir tourner dans les lieux du 19e avec des machines qui plus est sont en fonctionnement. C'est en très bon état, donc ça permet de tourner dans un lieu presque comme à l'époque.
Les auteurs de la série et David Oreg, le réalisateur, revisitent l'œuvre de Zola dans une écriture télévisuelle plus moderne, mais avec la même volonté de rendre hommage au monde de la mine.
Dès que ces lieux reprennent vie, dès qu'on met quelques bras zéro, dès qu'on arpente à notre tour les carreaux, dès qu'on a les pieds un peu dans la boue, dans la terre, et qu'on ressent un peu ce charbon dans nos regards, sur nos visages, mais ça nous donne envie de raconter avec d'autant plus d'authenticité le souffle et le courage qui animaient ces personnes qui travaillaient sur ces sites. Et c'est vrai qu'on est tous chargés de sacrées vibrations.
Et parmi les 2400 figurants de cette énorme production, beaucoup de gens du cru comme Henri qui retrouvent ici des racines familiales.
Mon grand-père, mon père, ils étaient tous mineurs. Et en plus que j'ai travaillé ici, donc revenir dans ce même lieu, c'est vrai que c'est assez émouvant même.
Dans quelques jours, on tournera des scènes du fond de la mine, cette fois dans un décor entièrement reconstitué qui sera conservé puis exposé sur un autre site historique de la mine, celui d'Arenberg près de Valenciennes. À Wany, Lionel Gougelot, Europe 1.
Trois résultats de foot en un clin d'œil. Le Classico OM-PSG remporté 2-0 hier soir par les Parisiens. Le Super Bowl, finale du foot américain, remporté par Tampa Bay et Tom Brady contre Kansas City. Et puis Gaël Monfils, c'est du tennis, éliminé d'entrée de jeu de l'Open de tennis d'Australie en 5-7 face au Finlandais, Émile Rusevuori.
Joli.
C'est comme ça qu'on prononce ou pas?
Je ne sais pas. En tout cas, vous m'avez impressionné déjà sur les Tampa Bay... contre Kansas City, je vais pas plus loin, on va glisser. Merci beaucoup François Giffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour à vous Mathieu et bonjour à tous. Alors beaucoup de sujets abordés ce matin avec notre invité, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, dont ce coup de tonnerre dans le ciel économique avec l'offensive de Veolia sur Suez. À tout de suite pour l'interview.
Il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Bienvenue à vous et bonjour Bruno.
Bonjour
Le Maire.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Une bataille entre deux grands champions français dans l'actualité, Veolia et Suez. Veolia qui a lancé hier une offre, une OPA hostile sur Suez, sans tenir compte du côté amical que vous aviez pourtant demandé. Quelle est votre réaction ce matin?
Je vais répéter une nouvelle fois que... cette opération, une opération de cette ampleur entre deux champions industriels français, ne peut réussir que si elle est amicale. Vous ne pouvez pas réussir une opération de cette importance contre les salariés qui se sont exprimés, contre le conseil d'administration, contre les clients, contre les usagers. Cette offre n'est pas amicale et cela contrevient aux engagements qui ont été pris à plusieurs reprises par Veolia. Elle pose aussi des questions de transparence. Pourquoi est-ce que subitement cette offre a été déposée? Donc nous allons saisir l'autorité des marchés financiers dès ce matin. Elle peut poser des problèmes de concurrence et elle est clairement précipitée. Donc je vais appeler une nouvelle fois l'ensemble des parties prenantes à retrouver le chemin de la raison et du dialogue. Et je vais vous dire, Sonia Mabrouk, de manière plus générale, je voudrais que chacun comprenne que surtout dans les circonstances actuelles où nous affrontons tous ensemble la crise économique la plus grave depuis 1929. Le capitalisme français, ça ne peut pas être la guerre de tous contre tous. Ça ne doit pas être la guerre de tous contre tous.
Mais dites-nous, Bruno Le Maire, quel est le risque? Est-ce qu'il y a un risque même politique, parce que du côté de Veolia, le patron est déterminé, estime qu'il y a un double jeu justement chez Suez. Voilà pourquoi il a accéléré.
Je ne suis pas là pour sonder les intentions des uns et des autres. Je suis là pour faire respecter des règles et pour, avec l'ensemble des acteurs économiques français, construire un capitalisme qui soit responsable, qui soit durable, qui soit respectueux des salariés, respectueux de l'emploi, respectueux de l'empreinte industrielle dans notre pays. Les risques, c'est quoi ? Mais c'est des risques sur l'emploi. C'est des risques sur l'empreinte industrielle, c'est des risques de concurrence, ils ont été clairement identifiés. Et vous ne pouvez lever ces risques que dans un cadre amical, que en discutant, que en dialoguant,
en
retrouvant tout simplement
Monsieur le ministre,
la raison.
À ce micro, Antoine Frérot a apporté, a-t-il dit en tout cas, des garanties en termes d'emploi. Elles vous semblent insuffisantes ?
Je ne sais pas ce que valent ces garanties à partir du moment où Veolia s'était engagé et avait apporté toutes ces garanties pour avoir une offre amicale. Et que Veolia vient de déposer une offre qui est inamicale. Donc simplement, je veux le redire avec beaucoup de force, le capitalisme français ne peut pas être la guerre de tous contre tous. Chacun doit retrouver un peu de raison, un peu de sagesse et tout simplement un peu de sens de l'intérêt général. Parce que ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu, Sonia Mabrouk. Ce sont des technologies dans le traitement de l'eau, dans la gestion des déchets, qui nous concernent tous. C'est la vie quotidienne des Français. Dans des dizaines de milliers de communes en France. Ça suppose, je crois, un peu de sens de l'intérêt général.
Vous craignez une étincelle sociale ?
Ce n'est pas l'étincelle sociale que je crains. Ce que je crains, c'est les salariés qui se demandent ce qui va arriver à leur emploi. C'est les collectivités locales qui se disent « Mais est-ce que la concurrence va être préservée dans cette opération ou est-ce que je vais être contraint avec un acteur unique ?» C'est les technologies, c'est les savoir-faire industriels qui sont en jeu. Et vous voyez bien qu'à partir du moment où nous avons deux fleurons industriels qui ont un niveau de classe mondiale, qui sont Suez et Veolia, dans un enjeu qui est vital pour le XXIe siècle, le traitement des déchets et le traitement et la gestion des eaux. Est-ce qu'il ne serait pas infiniment préférable que cette opération se fasse dans le cadre d'un dialogue apaisé ? Est-ce que ce n'est pas trop demandé à l'ensemble des parties prenantes de revenir sur le chemin du dialogue et de retrouver le sens de la raison ?
Vous parlez beaucoup, et c'est normal, des enjeux de l'emploi. Monsieur le ministre, on va rester sur le front de l'emploi en France, tandis que l'INSEE anticipait la destruction de près de 600 000 emplois en 2020 dans notre pays. Finalement, ce sont près de 360 000 emplois qui ont été détruits. Alors, c'est déjà beaucoup, c'est terrible pour ceux qui le subissent, mais c'est moins que prévu. Est-ce que c'est le quoi qu'il en coûte ? C'est une économie sous perfusion qui le permet ?
Le quoi qu'il en coûte a évidemment été particulièrement efficace en 2020. On le voit bien avec le nombre d'emplois détruits, 360 000, c'est toujours trop, bien entendu. Et moi, ma première pensée, elle va à tous ceux qui ont perdu leur emploi, qui sont dans une situation difficile. Mais je rappelle qu'on annonçait 700 000 destructions d'emplois, 900 000 pour l'UNEDIC. Donc nous avons, notamment grâce au chômage partiel, protégé l'emploi. Nous avons également protégé les entreprises. En 2020, 35 000 faillites, alors qu'il y en a d'ordinaire 50 000. Nous avons protégé la croissance, puisque nous avons vu qu'avec le deuxième confinement, nous pensions perdre 12 % d'activité. Nous n'en avons perdu qu'un peu plus de 8. Donc oui, c'est d'abord dû au quoi qu'il en coûte. Mais je vais vous dire, Sonia Mabrouk, c'est surtout dû à l'exceptionnelle capacité de résistance de l'économie française. L'économie française a montré, dans cette crise, son immense capacité de résistance. Et je vais vous donner ma conviction. Elle va montrer, à la fin de l'année 2021, son immense capacité de rebond. Nous avons la possibilité d'avoir une fin d'année 2021 qui soit une forte année en termes de croissance, en termes, je l'espère aussi, à plus long terme, de création d'emplois, si nous prenons, comme nous le faisons actuellement, les bonnes décisions, c'est-à-dire si nous investissons sur
En termes de création d'emplois, monsieur le ministre, alors que beaucoup s'inquiètent justement avec peut-être une fin progressive du quoi qu'il en coûte et aussi l'arrivée des échéances, des prêts garantis par l'État, qu'il y ait plutôt une vague de faillite.
Mais parce que sur le long terme, nous sommes en train de réussir la transition d'une économie du XXe siècle vers une économie du XXIe siècle. Nous avons d'abord des secteurs qui continuent de marcher très bien. Regardez le bâtiment, les travaux publics, ils ont créé 20 000 emplois. Vous avez des secteurs nouveaux qui sont en train de créer de nouveaux emplois. Prenez les start-up de technologie, elles ont créé 10 000 emplois au cours des mois passés. Et tout l'objectif du plan de relance que nous mettons en œuvre à la demande du président de la République, c'est d'investir dans des nouvelles chaînes de valeur qui vont créer de nouveaux
emplois.
Vous avez
aujourd'hui un exemple justement d'une coopération industrielle
Je peux vous en donner plusieurs. Prenez les batteries électriques. Nous allons créer 2000 emplois dans le nord de la France grâce à une usine de batteries électriques financée par PSA, avec l'alliance avec Total et avec Saft. C'est bien une nouvelle technologie, une nouvelle chaîne de valeur, de l'indépendance industrielle et des emplois.
Monsieur le ministre.
Les semi-conducteurs, Sonia Mabrouk, dont on parlait ce matin, vous voyez bien qu'on est totalement dépendant de l'Asie sur les semi-conducteurs. Nous allons investir sur les semi-conducteurs. L'hydrogène, ce matin, Air Liquide et Siemens annoncent une alliance et une coopération pour créer une première usine qui va permettre de faire de l'électrolyse de grande puissance pour créer notre propre hydrogène vert.
C'est un exemple d'investissement d'avenir. Mais monsieur le ministre,
mais je pourrais vous parler pendant 10 minutes de toutes ces chaînes de valeur nouvelles qui vont créer de nouveaux emplois.
Certes, mais malheureusement, on pourrait vous parler aussi pendant 10 minutes de ce qui ne va pas, c'est-à-dire des vagues de faillite, peut-être dans la restauration, dans d'autres domaines également. On dirait que ça fait partie d'une économie du passé. Vous ne me parlez que de l'économie de l'avenir. Mais c'est également notre tissu actuel.
Mais les restaurants sont l'économie de l'avenir. Les hôtels sont l'économie de l'avenir. Le tourisme sont l'économie de l'avenir.
Et vous pensez qu'il y aura une création d'emplois dans ces secteurs en 2021 ?
Sans doute pas dans les mois qui viennent. Chacun sait que c'est eux qui sont le plus touchés par la crise. D'ailleurs, c'est eux qui ont le plus notre soutien parce que c'est eux qui souffrent le plus. Et les restaurateurs, les hôteliers, tous ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme, les acteurs de l'événementiel, de la culture, tous ceux qui travaillent dans les salles de spectacle, dans les salles de théâtre, tous ceux qui travaillent dans le cinéma.
La montagne
aujourd'hui,
aussi, bref, oui.
Ils vivent un enfer. Un enfer économique et un enfer moral. On les soutient, nous sommes derrière eux et nous serons derrière eux tant que la crise durera. Mais est-ce que ça veut dire que demain, il n'y aura plus de cinéma, plus de théâtre, plus de restaurants, plus de bars, plus d'hôtels ? Certainement pas. J'ai confiance dans la capacité de ce secteur à se redresser, à se réinventer à la sortie et à nouveau à créer des emplois.
Mais les Français se demandent aussi ce matin, et puis déjà depuis quelques mois, monsieur le ministre, qui va payer ? Vous répétez, Bruno Le Maire, depuis des mois d'ailleurs, qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Et selon un récent sondage pour les Échos, 76% des Français ne croient pas en cette promesse. Ils sont réalistes, j'allais dire, dans l'un des pays les plus taxés au monde.
Ils ne sont pas réalistes, ils sont simplement lucides par rapport, et pragmatiques, effectivement, par rapport à ce qui a été décidé dans le passé. Moi, je le comprends, ce sondage. Quand nous sommes sortis de la grande crise financière de 2008-2010, nous en sommes sortis en évitant le pire, mais à la sortie, il a fallu payer la note. La note a été payée à partir de 2012, au cours du précédent quinquennat, par une augmentation massive des impôts et des prélèvements sur les Français. Ce qui a amené d'ailleurs l'un de mes prédécesseurs, qui est actuellement premier président de la Cour des comptes, à dire qu'il y avait un ras-le-bol fiscal. Eh bien, nous ne pouvons pas refaire la même erreur à la sortie de cette crise qui est, je le redis, la plus importante depuis 1929, c'est-à-dire faire payer la note aux Français par les impôts. On l'a fait une fois, ça a été une catastrophe, on ne peut pas le faire une deuxième fois.
Sinon,
et c'est un engagement que j'ai pris comme ministre des Finances vis-à-vis des Français.
Si vous n'êtes plus ministre dans un an, que vaut cet engagement ?
Mais j'ose espérer que ça fera partie du débat de la présidentielle. Comment est-ce qu'on peut rembourser la dette ? D'abord, on peut la rembourser en ayant une croissance plus forte et en investissant grâce à notre plan de relance.
Vous savez que ce ne sera pas suffisant, la croissance.
Ça n'est pas suffisant, mais c'est un élément clé. Et ça, nous la nourrissons, cette croissance, grâce à l'investissement dans de nouvelles chaînes de valeur, de nouveaux secteurs industriels que je viens de décrire. La deuxième manière de rembourser cette dette, c'est effectivement d'être plus économe sur l'argent public. Soyons clairs.
Mais il est où le plan rigoureux sur la maîtrise des dépenses publiques ?
Déjà, il commence par le fait de n'investir aujourd'hui, ne dépenser de l'argent public que pour ceux qui en ont réellement besoin, pour des dépenses d'investissement ponctuelles qui peuvent être retirées ensuite et pas pour des dépenses éternelles. Et la troisième réponse, c'est des changements structurels dans notre système social, de façon à assurer son bon financement. C'est cette réforme des retraites dont je parle très souvent, qui doit nous permettre tout simplement de travailler tous globalement davantage pour pouvoir financer notre modèle
avec
de protection sociale.
Avec le risque d'allumer une étincelle sociale dans un pays esselé en parlant de réforme aujourd'hui.
Mais il faudra le faire au bon moment, mais je pense que l'immense majorité des Français qui sont lucides savent parfaitement que notre système de protection sociale, auquel nous sommes tous viscéralement attachés, il coûte cher. Et vous ne pouvez pas avoir le système de protection sociale le plus généreux au monde et être dans le même temps la nation développée qui a le volume global de travail parmi les plus faibles. Et à un moment donné, ça pose un hic. Et bien ce hic, il ne peut se résoudre qu'en ayant le courage d'engager le moment venu, je dis bien le moment venu, une réforme des retraites.
Alors Europe 1, monsieur le ministre, s'engage toute la semaine avec des propositions très concrètes pour soutenir les plus jeunes d'entre nous en grande souffrance. Demain, d'ailleurs, à votre place, notre invité sera Gaspard Guermont-Pré. Il a 23 ans, il a fait une vidéo sur le mal-être des étudiants qui est devenue virale. Quel message vous lui adressez ? J'allais dire, au-delà du message aussi, quelles nouvelles mesures aujourd'hui apporter ?
D'abord, j'ai vu sa vidéo Et je veux lui dire qu'il a touché juste. Il a touché juste, je le vois, je vais vous dire, avec mes deux fils aînés. L'un est à l'université, je le vois, qui suit ses cours en visio, qui est derrière son bureau, qui a son écran devant lui, qui a très peu de contacts, qui a très peu de cours en présentiel, comme on dit, qui n'a pas la vie d'un étudiant de 20 ou de 21 ans. Voilà, c'est tout, c'est la triste réalité. Et pour beaucoup d'étudiants, il n'y a plus de petits boulots, il n'y a plus de ressources pour pouvoir se payer leur logement. Ils ont des parents qui parfois ne peuvent pas apporter les 10, 20, 50 euros nécessaires par mois.
Ça, c'est le diagnostic que l'on fait tous.
Non, mais c'est la réalité. Donc, nous avons apporté un certain nombre de réponses, que ça porte sur le ticket restaurant, sur des aides financières supplémentaires. S'il faut à un moment donné faire davantage pour soutenir les étudiants, Frédéric Vidal, la ministre des Universités, suit ce dossier avec énormément de cœur, d'attention. Le président de la République est totalement mobilisé sur ce sujet. Nous, toutes les propositions concrètes qui permettraient aux étudiants de passer mieux cette période, qui de toute façon restera difficile pour eux, nous serons toujours ouverts.
On va en parler notamment toute la semaine et on diffusera ce que vous avez dit justement à notre invité demain à 8h15. Merci, Bruno Le Maire, d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée à vous.
Merci Sonia, à 8h29.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani, la météo, Laurent Cabrol dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h32 sur Europe 1. Un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
La tentative de rapprochement Veolia-Suez. Dernier épisode du feuilleton ce matin. La justice ordonne en référé à Veolia de suspendre le lancement de tout OPA contre son concurrent. Hier soir, Veolia se disait prêt à investir près de 8 milliards pour acquérir Suez, qui dénonçait de son côté une opération irrégulière et illégale. Ce matin sur Europe 1, Bruno Le Maire a estimé que cette opération ne pouvait réussir que si elle était amicale. Cette offre, a dit le ministre de l'Économie, contrevient aux engagements pris par Veolia. Le gouvernement va saisir l'autorité des marchés financiers dès ce matin. La ville de Saintes, face à la montée des eaux, la Charente, devrait atteindre le pic de 6,20 m dans la journée. Environ 250 habitants pour l'instant ont été évacués. Stéphane Place a rencontré Pascal Yenck. Il possède un restaurant gastronomique qu'il vient de rénover entièrement. Avec une activité déjà à l'arrêt à cause de la pandémie, c'est aujourd'hui la double peine.
Oui, c'était tout neuf. Sol tout neuf aussi, aujourd'hui. 25 cm d'eau dedans. C'est dur à voir. Hein.
Il y a encore tous les outils que vous avez utilisés pour la rénovation partout.
Voilà, c'est ça, j'ai même pas eu le temps de les retirer. De toute façon, hier, les pompiers sont venus hier et grâce à leur solidarité, ils ont amené des parpaings avec la mairie. On a pu tout surélever, mais bon, c'était hier, vous voyez ce que je veux dire. Donc on avait déjà pas mal de produits ou de matériel qui était immergé. C'était neuf, on était contents, on s'était dit, allez, on relance l'affaire. Ça fait déjà 6 mois sur une année qu'on travaille plus. Maintenant, c'est la Charente qui monte. Moi, je suis là depuis 2004 à Sainte. Je n'ai jamais eu ça. Ça fait beaucoup de choses et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir et quand est-ce qu'on pourra reprendre le cours normal de notre vie de restaurateur. On faisait de la vente à emporter, mais depuis 3 semaines, on s'était dit, avec mon épouse, on va faire la Saint-Valentin, donc on va pouvoir travailler comme il faut à la Saint-Valentin. Vous voyez, ce matin, paf, 1h30 après que je me sois couché, j'entends plus les pompes, donc je me suis réveillé, j'étais obligé de réparer une pompe parce que je me dis, si je ne fais pas attention, j'aurai 70 cm d'eau dans mon restaurant. Depuis mercredi, les pompes tournent en permanence, 7 pompes tournent en permanence dans l'établissement.
Un restaurateur de Saintes au micro européen de Stéphane Place. Et pour le milieu de la culture, à quand la réouverture? Ce matin sur BFM TV, la ministre Roselyne Bachelot a assuré préparer celle des musées et des monuments. Mais, dit-elle, il faudra d'abord une décrue des contaminations et de la pression hospitalière. Le Beauvau de la sécurité, ça commence aujourd'hui. Première table ronde sur les relations entre la police et la population. Justement, comment percevons-nous les policiers? Guillaume Biais, bonjour.
Bonjour.
Grâce à vous, Europe 1 dévoile ce matin les résultats d'un sondage Ipsos pour le compte de la police nationale. Les résultats sont contrastés, mais ce qu'on retient d'abord, c'est que l'image des policiers s'améliore.
Oui, 71% des personnes interrogées ont une bonne image de la police. C'est en nette amélioration depuis un an, mais c'est encore bien en dessous de ce que c'était après la vague d'attentats. Il faut dire qu'entre-temps, l'image de la police s'est détériorée, notamment avec la gestion des manifestations de Gilets jaunes. Alors, dans le détail, les Français lui font de plus en plus confiance pour lutter contre le terrorisme, contre la cybercriminalité aussi, et surtout pour la prise en charge des victimes. On sait que de gros efforts ont été menés, notamment dans l'accueil et l'écoute des victimes de violences sexuelles et conjugale. De manière quasi unanime, le métier de policier est jugé difficile et dangereux, y compris dans la vie privée des agents, estiment 9 Français sur 10.
Et dans ce sondage, il y a aussi pas mal de critiques, Guillaume.
Bien évidemment, oui. Alors, notamment sur le thème de la violence, hein, c'est le mot qui marque les Françaises interrogées, tant la violence des policiers que celle des manifestants face à eux, il faut le souligner, avec dans l'opinion un sentiment d'impuissance face aux casseurs. Je vous donne ce chiffre, 78% des personnes interrogées estiment que la police est dépassée par les événements. Elle est même jugée archaïque et désorganisée par la moitié des personnes sondées. 62% pensent aussi que les policiers font régulièrement ou de temps en temps usage excessif de la force. Mais, et c'est intéressant, les deux tiers des Français disent qu'ils font confiance à l'IGPN pour traiter de manière impartiale ces affaires de violence présumée. Alors que, on le sait, la police des polices est souvent critiquée et que son éventuelle réforme sera aussi sur la table de ce Beauvau de la sécurité.
Merci Guillaume Biais. Et puis notez qu'à partir d'aujourd'hui, le protocole sanitaire est renforcé dans les établissements scolaires. Ça veut dire concrètement, fini les masques artisanaux. Les enfants devront obligatoirement porter des masques de catégorie 1. Il n'y a pas de race de chiens plus dangereuse que d'autres. C'est le résultat d'une étude de l'agence sanitaire l'ANSES. Jérôme Lacroix, une enquête qui va vraiment à l'encontre des idées reçues.
250 000 morsures chaque année, estiment les vétérinaires. Pitbull, Rottweiler, berger allemand, dangereux, oui, mais votre labrador, votre caniche, votre cocker ou même votre teckel peuvent aussi mordre gravement. Ils figurent sur la liste des chiens les plus mordeurs. L'agressivité de l'animal est la conséquence en fait d'une multitude de facteurs parmi lesquels une mauvaise éducation par le propriétaire, de mauvaises conditions de vie, mais aussi une séparation trop précoce de la mère, moins de 8 semaines de sevrage. Quelques clés pour se prémunir. Ne dérangez pas l'animal pendant qu'il mange, ne vous mettez pas à courir à son contact, ça réveille un comportement de meute. Certains signes doivent vous alerter. Si votre chien se lèche souvent la truffe, s'il bâille beaucoup, s'il détourne le regard ou salive en abondance, des signes d'attaque imminente. Ce sont des témoins d'un stress de l'animal, des signes que les jeunes enfants détectent moins bien. Les garçons de moins de 15 ans sont les victimes les plus courantes, souligne l'ANSES, qui préconise de ne jamais laisser un enfant seul avec l'animal.
Voilà les bons conseils de Jérôme Lacroix. Le sport avec d'abord les larmes de Gaël Monfils, éliminé de l'Open d'Australie dès le premier tour. Le numéro 1 français s'est incliné face à un jeune Finlandais. Côté foot, hier soir, le PSG a remporté son 100e duel contre l'OM, 2-0 au stade Vélodrome. Et puis aux États-Unis, c'était le 55e Super Bowl, le plus grand rendez-vous sportif et télévisuel du pays. 100 millions de téléspectateurs, les Buccaneers de Tampa Bay l'ont largement emporté face aux Kansas City Chiefs 31-9.
Merci beaucoup Hélène Zelani. C'est une fois dans l'année le Super Bowl. Voilà. Les Buccaneers de Tampa Bay, c'est ça? Voilà. On l'avait. Merci, 8h38 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Et c'est le froid qui nous tombe dessus. Hein. C'était pas tout à fait dans la norme. On se pensait qu'on allait quand même l'éviter, mais non, les Russes nous ont envoyé leur moins 20, parce que là-bas il fait moins 20, mais il fait quand même, chez nous, il a fait quand même moins 6, moins 7 hein, dans les régions du Nord. Et il a actuellement, il y a encore des températures négatives à Langres, Rouen, le Touquet, en banlieue parisienne, etc. Donc soyez particulièrement virulents et soyez particulièrement prudent, j'y arriverai. Normandie, Picardie, Nord, Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, Bourgogne, Île-de-France sont les régions les plus concernées par quelques flocons. Alors pour l'instant, il y a quand même pas mal de neige dans le nord-est et dans l'est et dans le nord, mais il y en aura dans l'après-midi beaucoup moins dans toutes ces régions et celles que je viens de citer. Et il pleut dans le sud-ouest, là il continuera de pleuvoir. En Bretagne, Pays de la Loire, brin de soleil, Berry, Franche-Comté, éclaircie à venir et un peu de soleil quand même aussi, allez soyons optimistes sur le Béarn et la Côte d'Azur. En région lyonnaise, il ne pleuvra que ce soir. J'ai donné en à peu près tout ce que je peux vous dire en quelques secondes. J'ajoute que les températures maximales se situeront entre moins 2 et plus 9 degrés, que les inondations, rien ne change en matière de vigilance et que le froid va durer une bonne partie de la semaine, sinon toute la semaine.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h39 sur Europe 1 et nous retrouvons le docteur Jimmy Mohamed et ses réponses à vos questions de santé. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes avec nous, solidaire Europe 1, solidaire de cette jeunesse en souffrance, les étudiants, les jeunes actifs et on le sait, les jeunes qui souffrent psychologiquement. Ce matin, vous nous proposez de réduire ce stress qu'ils subissent en ce moment.
Oui, c'est vrai qu'on sait que ce stress est important à cette période et qu'il va finir par devenir délétère. Il va entraîner des troubles du sommeil, de l'angoisse et parfois même de la dépression. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous réfugier sur les toxiques, notamment comme l'alcool ou le cannabis, mais aussi sur les anxiolytiques, les somnifères, qui vont entraîner sur le long terme une accoutumance, perturber votre horloge biologique et donc entraîner des troubles du sommeil, et finalement vont avoir plus d'effets négatifs que positifs sur votre santé. Alors ce qu'on peut vous proposer, c'est un truc qui marche chez tout le monde, c'est tout bête, mais c'est de la méditation. Alors quand on dit comme ça, méditation, ça a l'air chiant, mais ça a vraiment un pouvoir extraordinaire sur votre cerveau. Il faut bien comprendre que la méditation, on a fait des IRM et on s'est rendu compte que après 8 semaines de méditation, votre cerveau change. Il change de structure au niveau d'un organe assez particulier qu'on appelle le système limbique, qui est responsable des émotions. Ça veut dire que vos émotions vont vraiment changer à mesure que vous faites de la méditation. Ça va aussi diminuer les ruminations, vous savez, ces pensées obsédantes, automatiques, qu'on a notamment le soir, et ça va vous aider à prendre de la distance avec des pensées qui seront moins négatives. Et puis, ça va aussi améliorer votre sommeil. On s'est rendu compte que ceux qui méditent ont un taux de mélatonine, vous savez, l'hormone qui permet de s'endormir, plus élevé que les autres. Et puis, pour les étudiants, c'est pas mal, parce qu'on sait que ça va aussi stimuler l'attention et la concentration, améliorer la créativité, mais aussi la mémoire en période d'examen. Ça peut être intéressant.
On a comme ça un impact très concret sur notre cerveau, mais la méditation, comme ça, ça semble pas forcément à la portée de tous facilement. Oui. Est-ce que vous avez un exercice simple que oui, tout le monde pourrait faire?
Il y en a de nombreux. Le tout, c'est la répétition. Même 5 minutes par jour, ça suffit. Et je vous propose l'exercice du grain de raisin à manger en 5 minutes. Alors, c'est tout bête, mais vous prenez un grain de raisin ou une fraise ou une framboise, et puis vous utilisez vos 5 sens avant de le manger. Tout d'abord, commencez par le toucher. Vous explorez l'objet du bout des doigts. Vous en ressentez le poids, les contours, la matière. Vous ressentez sa texture ou sa surface. Ensuite, mettez-la à l'oreille, toujours les yeux fermés, et vous frottez l'objet contre votre oreille et vous utilisez votre ouïe. Vous écoutez, ensuite, vous servez de votre odorat. Vous le mettez sous votre nez, vous voyez s'il y a une odeur particulière. Puis vous ouvrez les yeux, vous observez la taille, la couleur, la texture, les effets que la lumière peut avoir sur cet objet. Puis vous le mettez dans votre bouche, sur votre langue. Vous explorez l'objet, sa forme, sa texture, sa surface. Et puis vous laissez les saveurs arriver. Au moment où il n'y a plus de saveur, eh bien vous l'avalez. Eh bien ça, juste cet exercice tout simple, que vous pouvez faire tous les midis, va réduire votre stress et vous permettre d'aller un peu mieux et de vous entraîner à une petite routine pour essayer de passer tous ensemble ce cap difficile.
Moi, je fais ça avec la côte de bœuf et ça marche super.
Ouais, ça va.
Super. C'est pas plus de 5 minutes par jour, mais ça marche. Merci Jimmy Mohamed. À retrouver sur Europe1.fr. Je le dis en plaisantant, mais voilà. On va aussi essayer de trouver des solutions cette semaine. C'est important. Faire le constat des difficultés que rencontre la jeunesse, mais apporter des solutions. Et tiens, dans ce rendez-vous de 15h à 16h, le dossier du jour sera consacré au secret du bonheur à la danoise. Comment rester heureux dans cette période?
Soyez au rendez-vous.
C'est vrai qu'ils sont agaçants parfois, les Scandinaves. Comment font-ils pour être les peuples les plus heureux au monde?
Hey, on vous donnera la recette tout à l'heure.
La réponse à 15h. Merci Jimmy. 8h42, Notre Planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors Fanny, vous vouliez revenir sur un phénomène magique survenu ce samedi, hein, samedi 6 février, là ce week-end, du sable du Sahara est remonté jusque dans le sud de la France. Et vous nous dites que c'est une très bonne nouvelle pour la nature.
Oui, alors de nombreux habitants de la région Rhône-Alpes dont je fais partie se sont sûrement interrogés sur l'origine de ce ciel jaunâtre. Du Vercors à la région stéphanoise en passant par Clermont-Ferrand et Grenoble, le ciel s'est effectivement opacifié d'un brouillard peu habituel. Et c'est en fait un puissant flux de sud qui a soulevé dans les airs du sable saharien ce vent. On l'appelle, vous le connaissez, le Sirocco. Et c'est dans ce couloir aérien que l'air doux est remonté sur la France accompagné d'un nuage de sable. Et l'un des avantages méconnus de ce phénomène, c'est que c'est une aubaine pour la nature car ce sable va apporter du calcaire et des minéraux qui vont venir fertiliser la végétation.
Ce sont de grandes quantités qui retombent, Fanny ?
Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'impression comme ça quand on voit effectivement ce nuage et ce sable en suspension, mais ce sont des tonnes et des tonnes de sable, ce qui représente un apport en minéraux considérable, de l'ordre de 12 grammes de sable par mètre carré qui retombe sur la France chaque année. Alors pour vous donner un exemple concret, le 21 février 2004, il y a eu un très très gros sirocco, un sirocco historique, et 500 000 tonnes de sable sont tombées, notamment en Corse, ce qui représente 50 grammes par mètre carré. Dans le sud de la France, hein, y a eu la Corse, mais toute la partie sud. Et ça fait 1,5 million de tonnes de sable saharien qui ont été soulevées, ce qui fait 4 fois les quantités annuelles.
Hein. Ah oui.
Le printemps qui a suivi, on s'en est tous rendu compte, a été extrêmement fertile grâce à cet apport en minéraux.
Grâce à ce sirocco. Et vous nous dites que le sable dans l'atmosphère peut parcourir de très très grandes distances et même traverser l'Atlantique.
Oui, oui, vous vous imaginez deux continents opposés et pourtant ils sont liés. La NASA a d'ailleurs modélisé la circulation atmosphérique, c'est-à-dire les courants qui transportent le sable depuis l'Afrique jusqu'au continent sud-américain. Et ce que l'on observe, c'est que de façon cyclique, chaque année, des millions de tonnes de poussière venues d'un ancien lac situé au Tchad sont soulevées et transportent du phosphore jusque dans la forêt équatoriale, élément indispensable à sa croissance. Si la forêt est si luxuriante, c'est grâce à cet apport aérien invisible et essentiel. Ce qui montre, avec magie, l'équilibre subtil de notre monde et l'interconnexion qui relie le minéral et le végétal.
Merci Fanny Agostini, notre planète tous les matins sur Europe 1. Il est 8h45. Et à suivre la revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46 sur Europe 1.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et comme tous les jours, on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actualité.
Eh oui, bonjour ma chère Julie. Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Europe 1, une nouvelle radio ce matin. En effet, Europe 1 est solidaire, solidaire de la jeunesse. Je suis jeune, Jimmy et Mohamed est jeune aussi. On est une radio jeune, même si c'est vrai qu'il y a Lolo Cabrol qui nous fait exploser la moyenne.
Mais,
on l'aime tellement, notre Lolo Cabrol.
Mais bien sûr.
Allez, l'info du jour, c'est Europe 1 qui, cette semaine, se mobilise pour les jeunes. Oui, je sais, c'est aussi crédible que Virgin Radio qui se mobiliserait pour le troisième âge. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Allez, l'autre info, c'est le prix que coûte la détention de Salah Abdeslam. 433 000 euros par an. Et oui, forcément, Europe 1, nous, on dit bravo. Parce que c'est ça, c'est la solidarité avec les jeunes. Mettre de l'argent pour aider un jeune qui ne peut pas sortir et doit rester enfermé dans son petit logement de 9 mètres carrés. Et puis, on finit. Allez, on finit avec la météo. La météo. Ce ciel orange en Rhône-Alpes. Ce week-end, dû à un flux transportant du sable du Sahara. Comme quoi, tout ne va pas si mal, Julie. Oui, c'est vrai, on ne peut pas partir à Marrakech pendant les vacances. Du coup, c'est Marrakech qui vient à nous. Bon, c'est vrai que Marrakech à Grenoble, c'est moins sympa. Mais vu la tronche qu'ont les vacances jusqu'ici, on ne va pas faire les difficiles. Allez, à vous, Julie.
Merci, Mathieu. Allez, on va dire un mot des inondations en France. Pas de victimes, heureusement, hein, mais de nombreux dégâts. Il a beaucoup plu aussi sur la capitale. On va faire un point avec Anne Hidalgo. Bonjour Madame Hidalgo.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard et bonjour à toutes les Parisiennes et les Parisiens qui nous écoutent. La province et Fanny Agostini, bien sûr, je m'en contrebalance. Julie, ce n'est pas sans une certaine fierté que je vous annonce ce matin que la circulation fluviale, est complètement bloquée. Alors là, je veux dire, c'est très fort. Non, parce que, franchement, bloquer les voitures, les bus, les taxis, les motos, les mobylettes et les scooters, qu'ils soient électriques ou pas, ça c'est une chose. Mais bloquer aussi les bateaux et la circulation fluviale, ça c'est fort. D'autant plus que je n'ai même pas moi-même le permis bateau.
Alors, vous avez appelé à une aide de 500 euros par mois pour les jeunes hein, pendant 8 mois.
Effectivement, je pense, et là c'est un sujet sérieux, que dans la situation actuelle, une mesure de bon sens serait donc de verser 500 euros par mois aux jeunes qui souffrent de leur situation précaire. Mmh. Et aujourd'hui, Mais ça va pas, il faut pas te gêner, ma vieille, la copieuse. Ah. C'est mon idée, ça, allons.
François Hollande, bonjour. Alors effectivement, vous avez défendu cette idée lors de la visite d'une épicerie solidaire. Hein.
Voilà, j'étais dans une épicerie solidaire pour chercher des pâtes, des nouilles, très exactement. Oui, parce que depuis que je suis président, j'ai plus vraiment de boulot, le téléphone sonne assez peu. On va se parler franchement, vous savez, je suis transparent. Et puis j'ai eu cette idée de solidarité, et là elle me la vole, mon idée. Non, mais pardon, mais attends François, mais c'est n'importe quoi, c'est mon idée. Non mais franchement, monsieur Béliard, je vous prends un témoin, madame Julie, si François Hollande avait des idées de gauche, ça saurait.
Hein.
Mais écoutez, on a tous vu le contenu de son réhéna.
De son quoi?
De son réhéna. Je sais que vous aimez... Oui, bon, bref.
Allez. Pour démêler un petit peu tout ça, hein, pour vous calmer, vous avez proposé tous les deux la même chose, quasiment en même temps. Signalons quand même que la moitié de la classe politique est favorable à une mesure de ce genre, et puis qu'elle a ses défenseurs, à droite comme à gauche.
Voilà, voilà, tout le monde me copie. Comme quoi, mon influence, mon aura d'ancien chef d'État est encore bien présente. Et là, d'ailleurs, j'ai une autre idée. Il faudrait prendre des mesures contre le changement climatique.
Non, mais c'est pareil. Tout le monde l'a, cette idée, enfin, monsieur Hollande.
Non, c'est pas possible. Alors écoutez, il y a deux hypothèses. Soit tout le monde me copie, soit j'ai complètement capté, saisi l'air du temps. Du coup, vous serez d'accord avec moi, cher Paul Lassène, qui est vif sur mes vannes, dans les deux cas. Hollande 2022, ce n'est pas absurde.
Ah bah si vous le dites, on veut bien le croire. Allez, à bientôt alors. Merci monsieur Hollande. Emmanuel Macron est avec nous maintenant pour parler évidemment des conséquences de l'épidémie. Bonjour monsieur le Président.
Oui, bonjour à toutes et tous. Écoutez, j'ai écouté l'auteur Bruno Le Maire chez la formidable Sonia Mabrouk.
L'auteur, oui.
Ça donne pas envie de le lire, le livre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu qu'il était chiant.
Oh, mon enfin.
Pardon. Oui, c'est Bruno. Pardon, monsieur le Président, vous trouvez que vraiment j'ai été chiant?
Non, mais un anesthésiste.
Oh, là, là.
Non, mais regardez les sujets. Veolia, Suez, l'INSEE, les pertes d'emplois. Mais j'ai décroché à la troisième question. Tu m'as fait piquer du nez, Bruno. No. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Oui, je disais merci de nous aider tous et toutes à lutter contre la pandémie, donc de respecter les distances, penser à bien aérer, tiens, à vous, à titre personnel, bien aérer votre studio.
Il n'y a pas de fenêtre.
Mais oui, je sais bien, vous aimez avoir une vue sur la Seine. Vous avez déjà eu une vue sur Paul Lassène, c'est déjà beaucoup.
Magnifique! Ah, c'est excellent.
Et bien qu'il existe quelque part. Madame Julie, lavez-vous les mains, monsieur Béliard, lavez-vous les cheveux. Faites tout ce que vous voulez.
Bon, ça va, c'est pas si drôle non plus. Il y a tous les chauves en studio qui rient.
Alors, les conséquences sont évidemment lourdes économiquement. Les Français sont très inquiets, monsieur le Président.
Oui, mais nous continuerons, je le dis ici haut et fort, nous continuerons notre politique du quoi qu'il en coûte. Madame Julie, je vous ai même préparé un chèque pour vous.
Ah voilà.
Vous voyez, pour vous aider à tenir.
Oula, monsieur Béliard, merci.
Vous aussi, vous serez gâtés. Les jeunes parents auront droit à une aide pour la garde d'enfants dans leur garage. Voici votre chèque. Monsieur Cabrol, nous veillerons. Oui, vous aussi, monsieur Cabrol. Nous veillerons à ce que votre bistrot puisse réouvrir. Voici un chèque à lui remettre.
Hier, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a néanmoins dit qu'elle s'opposait catégoriquement à toute annulation de la dette. Ça ne vous arrange pas, ça, hein?
Ah bon? Merde. Ah oui, non. Ah non, bon, ok. Non, oui, ça ne m'arrange pas, mais... Ok. Bon, écoutez, je me suis peut-être un petit peu emballé, un petit peu vite, peut-être. Donc, si vous pouviez, juste de façon transitoire, me rendre l'échec, on va repenser quelques éléments de notre stratégie.
Alors, tout à fait autre chose. Le chanteur Francis Lalanne a publié une tribune sur le site conspirationniste François pour vous proposer une conciliation. Sinon, il vous menace d'un procès militaire en haute trahison. Bah, dis donc.
En trahison. Bien décidément, j'ai vu aussi que Bébert des Forbans voulait mettre fin à toutes les mesures de protection.
Oui, il a dit ça pendant une manifestation des partisans de Florian Philippot.
Non mais attendez, Madame Julie, éclairez-moi, parce que j'ai complètement décroché, Monsieur Mohamed. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les chanteurs ringards des années 80? Il y a Thierry Hazard, prépare un coup d'État tant qu'on lui dit, c'est ça, hein?
Thierry Hazard.
Vous en souvenez, Thierry Hazard, oui, dans oui. Celui de Gerber. Francky Vincent veut devenir Premier ministre, peut-être. Gerber Montagnier veut prendre le pouvoir, peut-être.
Non, d'abord, moi, je suis pas ringard. Moi, je chante, je fais des concerts. Oula, Monsieur le Président, non. Moi, je vous respecte, moi. Même si c'est vrai que j'ai hâte qu'on rouvre les salles de concert, que je puisse chanter, rechanter en liberté. Par contre, Monsieur le Président, moi, je vous le dis, méfiez-vous de Émile et Images. Émile et Images. Oui, je sens qu'il prépare un gros truc avec Jean Schulteis. Oui, Jean Schulteis. Il y a Sabrina de Boys, Boys, Boys qui veut prendre la place de Jean Castex. Moi, j'ai entendu ça dans les coulisses. Niveau politique, je ne sais pas si ce serait vraiment pire mais ça rendrait les conférences peut-être plus agréables à suivre.
Les garçons confirment. Allez, pour terminer, le PSG a facilement battu l'OM hier soir, mais on va revenir ce matin sur l'interview que Neymar a donnée au magazine 7 à 8. Dans cette interview, la star brésilienne change complètement d'avis sur le PSG, qu'il voulait absolument quitter hein, l'été dernier, vous vous souvenez. On va recevoir Neymar et Kylian Mbappé. Bonjour messieurs.
Ah, salut. Oui.
Ah, il l'a tenu.
Bravo Neymar. Ah oui.
Oui, bonjour Madame Leclerc. Et moi, voici du pâté. Oui, moi.
Kylian, salut. Alors, à quoi est dû ce changement complet de ton, puisque l'année dernière, Neymar était prêt à donner 20 millions de sa poche pour retourner à Barcelone. Et maintenant, il crie son amour pour Paris.
Moi, molto plaisir, Paris est magique.
Paris est magique.
Oui, non, mais Neymar, laisse tomber, je vais faire pour toi. Votre question, c'est. Votre question, donc, c'est à quoi est due votre volte-face, cette volte-face? Eh bien, écoutez, au Covid, y a la volte-face de Neymar, c'est le Covid. Voilà, il n'y a plus un club qui a. Il n'y a plus un seul club qui a du pognon dans le monde, sauf Paris, hein, parce que ça appartient au Qatar. Alors, forcément, il aime Paris. Voilà, si Amazon rachetait Dijon, il crierait son amour pour la moutarde.
Eh bien, merci pour cette explication très claire, messieurs.
Une dernière question, Neymar. Ah. T'as eu combien de propositions de grands clubs qui veulent t'acheter
Zéro.
Voilà. Ça doit aussi un petit peu jouer dans le fait qu'il reste.
Très, très bien.
Merci beaucoup, Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse qu'a retrouvée sur Europe1.fr. Et d'ordinaire, je salue les auteurs de Nicolas à ce moment-là. Mais je salue tout particulièrement Philippe Cavrivière aujourd'hui, dont c'est l'anniversaire. On l'embrasse.
Évidemment.
Évidemment.
Bon anniversaire, Philippe.
Qui est Philippe Cavrivière. Et on envoie un petit coucou quand même. Alors, on va Cylian et Arnaud Demanche également. 8h57. Philippe Vandel est avec nous, Culture Média, c'est la matinée qui continue sur Europe 1. Bonjour
oui,
Philippe.
C'est leur fête à Vassilian et à Demanche. Notre info média du jour, l'arrivée d'une nouvelle plateforme télé en France s'appelle Pluto TV, avec un atout de poids, Pluto TV est gratuit. Qu'est-ce qu'on pourra voir? Eh bien, réponse avec notre invité, Olivier Jollet, c'est lui qui dirige en Europe l'activité streaming du géant américain Viacom CBS, c'est le propriétaire du Pluto TV. Au sommaire également, la saison 7 de Scam France, série événement avec une stratégie bien à elle pour tenir en haleine le public ado. On vous racontera, on sera avec l'une de ses comédiennes, Lucie Fagedet, et la directrice d'écriture, Déborah Hassoun. Vous savez ce que c'est une directrice d'écriture? Elle va nous le dire. Et puis le comédien Thomas Soliveres, il incarne le futur philosophe des Lumières dans la mini-série de France 2, Les Aventures du jeune Voltaire.
Culture Média de 9h à 11h sur Europe 1 avec Philippe Vandel et toute son équipe. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.